Camille interview Paris.
Je vais refaire ma vie, tout seul, à Paris.
Aujourd'hui, j'interview Gypsy Ferrari.
Je suis Gypsy et on est au consulat. Donc, le consulat, c'est un projet qu'on a monté en 2016 avec une association qui s'appelle GANG, pour Groupe d'Action Néo-Green. Et le but, bah, un consulat, quand t'es perdu dans un pays, c'est là où tu vas pour te retrouver. Mmh. Et bah, c'était tout pareil en 2016, il faut remettre le contexte, c'était la fin de Nuit Debout. Et donc il y avait quand même cette émulation dans Paris, puisqu'il s'agit de parler de Paris. Et donc l'idée a été de créer un consulat, c'est-à-dire un endroit où quand t'es perdu dans le monde actuel, tu vas et tu te rends compte que t'es pas tout seul à penser que ça tourne pas rond. Mmh. Et c'est aussi un endroit qui donne de l'ampleur à plein d'initiatives sociales et environnementales, puisque la portée du projet est quand même basée là-dessus. En tout cas, en 2016, on parlait d'éveiller les consciences à l'environnement. Mmh. La phrase pour la presse, c'est « Le consulat est un lieu éphémère et itinérant qui prône un art de vivre festif et engagé. » Donc ça, c'est la phrase de la presse. Itinérant parce qu'on prend que des endroits en transition, ouais. Des friches. Enfin, en tout cas, voilà. Le premier, c'était un immeuble haussmannien magnifique en 2016, donc, qui a duré un mois rue Balu, qui est devenu l'hôtel Balu. Puis après, on a remis ça en 2018. Ça a duré 6 mois. Dans les ateliers Gaîté, qui sont un centre commercial aujourd'hui. Et donc là, on est dans l'ancienne générale, c'est une sous-station EDF qui alimente encore la moitié du quartier, donc il y a encore au deuxième sous-sol ben voilà, de quoi faire de l'électricité, somme toute. Et c'est aussi grand parce qu'apparemment, ils mettaient sous tension tout ce qui est rame de tramway et tout. C'est pour ça que c'est... Puis je te montrerai après, il y a des étages au-dessus et tout. Et là, on est là pour un an, normalement. Ouais. On espère plus, puisqu'on a ouvert le 3 septembre 2020. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'était un petit peu un projet rapidement avorté, en tout cas dans sa partie publique, puisqu'on a continué à faire des trucs à l'intérieur. Et ça va devenir un cinéma, des cinémas étoiles.
D'accord.
Cinéma indépendant, du coup.
Ok. Et du coup, ces lieux-là, vous les demandez ou c'est la ville de Paris qui vous les prête ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. On nous appelle.
Ouais.
Le premier, c'était un lieu complètement privé.
Okay.
Et en fait, le premier, donc Lionel, mon Double Trouble, mm-hmm. qui est souvent sollicité pour reprendre des lieux puisqu'il a une expérience dans la vie nocturne parisienne,
ouais.
Notamment dans les clubs. Donc souvent, il y a des gens qui lui disent « Tiens, il y a tel immeuble qui se libère et tout. » Et donc là, l'histoire, c'est qu'on est donc en 2016. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec Lio, de ci, de là. Et puis, en fait, lui, il est parti, il a monté un projet de résidence d'artiste qui s'appelle Villa Lena, mm-hmm. en Italie, en Toscane. Et puis, il a pris conscience de plein de choses, notamment du fait qu'en fait, faut plus travailler avec des marques dans l'événementiel. Et puis, il s'est nourri de plein de récits. Moi, en fait, je suis partie à la fin de mon diplôme. Je travaillais encore avec Lio. Et en fait, j'ai dit, ouais, franchement, faire de l'événementiel, c'est-à-dire avoir des budgets de clients, de marques, de changer juste le DJ, la scéno. Et en fait, c'est toujours la même chose. Ça, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vais voyager. Du coup, je suis partie en Australie.
Tu es australienne aussi.
Ah bah voilà. J'ai vécu à Melbourne pendant un an.
Ah, super.
Ouais, très cool. Et en fait, quand même, j'avais un secret, un rêve secret, c'était de faire une grande école. Du coup, avant de partir, j'ai envoyé une candidature pour faire l'IFM. Mm-hmm. Et j'ai été acceptée. Du coup, je suis rentrée pour faire mon diplôme. Sauf que c'est un diplôme qui coûte extrêmement cher. Et du coup, il fallait que je travaille. Et en fait, la vie fait que cette personne est tout le temps là. Et donc, quand je suis rentrée... Je l'ai recroisé par hasard et je lui ai dit « Bon, bah tiens, ça serait bien que je sois serveuse parce qu'en fait, je suis en galère. » Et il m'a dit « Bah non, attends, je vais visiter un immeuble. Viens avec moi. » Et donc, on a visité ce qui est devenu le prochain consulat. Et puis, il m'a fait rencontrer le troisième pilier du consulat qui s'appelle Samantha Novella, qui est par ailleurs la présidente d'une autre association qui s'appelle Nature Rights, qui œuvre pour les droits de la nature. C'est eux qui ont fait les procès contre Total. Ils font partie du corpus qui assigne Jair Bolsonaro en ce moment à la Cour pénale internationale. Enfin voilà, ils ont pas mal d'actions, notamment sur l'Amazonie guyanaise. Et on s'est assis autour d'une table à l'hôtel Grand Amour, puisqu'encore une fois, il s'agit de parler de Paris. Et puis on s'est dit, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a aucun lieu qui nous réunit. Et du coup, y a Samantha qui a les personnes plutôt engagées. Pareil, elle avait fait Nuit Debout, donc elle est vraiment dans le milieu associatif. Il y a Lionel qui, on va dire, réunit plutôt les branchés. Mm-hmm. Puis il y a moi au milieu qui a 20 ans de moins qu'eux. Et on s'est dit, mais attends, nous on est potes. Sincèrement potes, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un endroit à Paris qui puisse les réunir et donc qui soit complètement décloisonné. Et donc ça a été le premier.
Les trois
qui à la fois permettent... En fait, c'était à l'époque, c'était... T'as des associations qui parlent mais qui ne savent pas comment, c'est-à-dire qui ont des solutions mais qui savent très mal les communiquer. Et la communication associative, c'est quand même très, très compliqué, quoi.
Ouais.
En fait, c'est de l'entre-soi aussi à leur façon. De l'autre côté, t'as des branchés qui, à l'époque, commençaient à comprendre que c'était la merde, quoi, et qui, eux, ont la parole, ont les médias, etc., mais qui, en fait, n'ont pas les solutions très concrètes. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais.
Et donc, le consulat, c'était l'idée de faire ce trait d'union entre les deux, de prendre la lumière des uns et les solutions des autres, et de faire comme ça un cercle vertueux. Donc, le premier consulat, c'était privé, complètement privé. Et ça a été un mois de folie, c'était du H24. L'idée, c'était de décloisonner au maximum, parce que quand on ouvre un lieu, on doit faire une demande en préfecture, et puis on doit dire qu'on est telle lettre, et une lettre, c'est activité dansante, restauration, galerie d'art, et chaque activité comme ça est classifiée. Et nous, on arrive avec un dossier, on a pris toutes les lettres, on a tout l'alphabet dans le dossier, et justement, on a dit on est tout, parce qu'il faut tout pour faire un monde, et donc on a une cantine associative, un bar associatif aussi... on a des résidences d'artistes, de l'art, des conférences, de la musique bien évidemment, live DJ set, la nuit, le jour, enfin voilà. Et ça fait que t'as un cours de boutichèque d'un côté, Los Indignados qui revenait d'Espagne, et puis Falto qui fait sa radio gangster. Et c'était fou, et donc après cette expérience là, la mairie effectivement est venue, et puis les institutionnels se sont un peu penchés vers nous et nous ont dit, mais en fait même le milieu qui faisait déjà en fait ça nous a dit, en fait ça, ce que vous faites, ça s'appelle un tiers lieu, ça a un nom. Donc voilà, et après donc on a cherché un autre bâtiment et puis on trouvait pas, et puis en fait il y a Unibail Rodamco qui est venu nous chercher, qui a dit nous on a ce truc là, ce serait cool si vous voulez de le prendre avant.
D'accord.
C'était dans le 14e et ça a été encore 6 mois de folie.
De folie, ouais, non-stop. Et donc c'est toi du coup, ton rôle, disons, dans tout ça, c'est comment tu le décris, si tu dois le décrire?
Je coordonne.
Tu coordonnes?
Je suis la
directrice.
Ouais,
artistique.
Non, pas artistique, parce que je sais pas, j'ai du mal avec les titres, moi,
ouais,
j'avoue.
Non,
je coordonne, je sais pas, certains disent que je fais la maman, quoi.
Ouais, j'allais dire, c'est un peu la maman de la maison, quoi.
Un peu la maman. Après, c'est pas très bien parce que ça me donne des mauvaises habitudes, mais il y a un truc un peu comme ça, entre la mère juive et la mère italienne, c'est au milieu des deux, tu vois, et
c'est nul de ça. Du coup, Lionel et Samantha, ils sont aussi impliqués, pas forcément que toi, dans le lieu, mais ils viennent quand même, ou ils apportent
bien sûr.
Leur réseau, et ils font des événements.
Ouais, c'est vraiment un trio. Puis moi, ils me sont nécessaires, en fait. C'est vraiment mon équilibre, les deux. Et donc, par exemple, dans l'asso, Lio est président, Samantha est secrétaire, et moi, je suis trésorière.
D'accord.
Donc,
tu vois.
Et donc, après, le fait est que on a d'autres activités avec Lionel, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et donc, du coup, on a aussi des clubs, une résidence d'artistes. Et notamment là où il est beaucoup plus, lui, physiquement. Surtout en ce moment où il ne se passe pas grand-chose ici. Alors non, la résidence d'Italie, elle est finie. Mais on en a ouvert une autre vers Fontainebleau qui s'appelle La Folie Barbizon.
Génial.
Et c'est sa maison, quoi, en fait. Donc, du coup, il est dans la forêt, il fait ses sculptures, etc. Il est au top, quoi. Samantha, elle a beaucoup, beaucoup de mal avec la métropole, donc elle est souvent partie en Guyane. Là, en ce moment, elle est au Paraguay, par exemple.
Okay.
Mais, encore une fois, physiquement, je suis plus présente, effectivement. Et puis, je suis dans le quotidien, vraiment, parce que c'est comme ça que je suis, en fait,
oui,
tout simplement. Et j'adore ça, et je m'en plains. Et en fait, c'est moi qui m'y mets toute seule, tu vois. mais oui, sans eux, c'est vraiment notre bébé à tous les trois, quoi. Et c'est un équilibre, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on a créé ensemble. Et avec tous les autres aussi, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ils me sont nécessaires je suis assez libre de faire ce que je veux. Je suis même complètement libre de faire ce que je veux. Même si Lio a plus un regard artistique dessus, il insuffle forcément, parce que c'est un gros capteur de tendance, donc forcément il insuffle plein de trucs. Samantha, elle a, pareil, je pense que Samantha, c'est l'ancrage dans le truc, tu vois. Il y a un truc un peu de raison. Et donc voilà.
Et du coup, donc le lieu était fermé le 15 octobre.
Oui.
Et vous avez continué à faire des événements, tu m'as dit, pendant le confinement et même alors, maintenant, parce que là, techniquement, vous êtes toujours fermé au public.
Ouais, alors c'est un peu... Donc on ouvre le 3 septembre, on ferme le 15 octobre, ça, quand ils ont fermé. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est une résidence d'artiste.
Ouais.
Et donc, en fait, c'était simple, c'était soit personne ne rentrait, soit... Ouais. On faisait en sorte que ça fonctionne. Et donc, en fait, on a fait en sorte que ça fonctionne. Et donc, au-dessus de nous, il y a 30 artistes en résidence.
Ok, super.
Qui ont continué de créer. Et ça a fait une espèce de super famille. Hyper émulation et tout. Et en fait, moi, je m'en rendais pas compte jusqu'à là, très récemment, où des gens viennent de plus en plus faire des visites pour des tournages, des shootings, et nous disent « mais c'est fou ».
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Mais oui, en fait, nous, on a continué de vivre et de créer quand tout le monde meurt, en fait, parce que les gens meurent littéralement. Ouais. Mm. C'est pas de la maladie qui les tue, c'est la solitude, le silence, le manque de gens, quoi.
Ouais.
Et donc la résidence a continué. Et puis après, on a pris aussi un projet qui s'appelle J'ai besoin d'eux.
Mm-hmm.
Donc c'est une action, c'est un collectif de citoyens qui s'est lancé pendant le premier confinement. Alors, normalement, on ne cite pas trop de noms parce que l'idée, c'est d'être le plus horizontal possible. Mais c'est vrai que ça a quand même, je dois dire, été créé par, pareil, un pilier de notre grande famille, qui est Afif, avec Eulalie, qui, pareil, en fait partie, et Julia, qui, maintenant, en fait partie aussi à sa façon. Et du coup, forcément, en fait, donc, au premier confinement, c'était... des restaurateurs qui ont des restes dans les frigos, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais.
Un copain qui appelle, qui dit « en fait, moi, je travaille à la Riboisière, Simon. En fait, on mange super mal, on n'a pas le temps de se faire à manger, c'est trop galère, machin et tout. Ok, on prend la nourriture des restaurateurs, on l'amène aux hôpitaux. » Et en fait, c'est devenu une espèce d'énorme machine de guerre où des bénévoles allaient chez les restaurateurs, certains approvisionnaient en nourriture qu'on achetait à l'époque, les restaurateurs cuisinaient avec leur petite team, d'autres redispatchaient, et comme ça jusqu'à 2500 repas dans tout la PHP. C'est devenu une espèce d'énorme truc. Fin du confinement, tout ça s'arrête. Reconfinement, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc Julia a dit, vas-y, Afif, travaillant à ce moment-là à Berlin, parce que ça nous a tous pris un peu de cours, Julia dit, vas-y, moi je relance aussi le truc, mais on fait ça beaucoup plus petit. Et donc nous, ici, avec le consulat, on a les cuisines, en fait, qui sont dispo. Mmh. Donc au lieu d'aller cuisiner dans tous les restos de Paris, on a dit, ok, petit truc, petite action, super locale, mais bien faite, quoi. Et donc, on a fait un appel aux dons. En un week-end, on a eu le petit sas par lequel t'es rentré, qui était blindé de légumes, de denrées, etc. Et donc après, c'est devenu, toutes les semaines, on met un chef avec sa brigade bénévole. Et puis, il y a des maraudes qui sont faites du lundi au vendredi, soit Porte de la Chapelle, soit ici quand on n'a pas de voiture. Et ça fonctionne super bien, même si c'est vrai que les trucs de couvre-feu, les dons, c'est compliqué parce que tu n'as plus le temps de faire tes courses. Donc donner, c'est compliqué. Mais ça aussi, ça fait vivre le lieu. Et moi, je suis contente parce que du coup, c'est vraiment l'équilibre du consulat. C'est-à-dire qu'il y a et une action purement créative, artistique, et en même temps une action très sociale, bénévole et concrète.
Ouais.
Et donc, en fait, tu vois, in fine, en prenant un peu les trucs qui se présentent en disant juste oui, parce que c'est aussi ça, le consulat, j'ai toujours dit que c'était un espace de liberté pure et que comme c'était de la liberté pure, tout le monde l'a respecté. Et je crois profondément en ça. Et du coup, à force de dire oui, parce que c'est ça, la liberté, de dire oui. Et ça a fait que, en fait, ça nous ressemble plutôt pas mal, in fine. Et donc là, oui, il y a un peu des trucs. Bon, après, on a fait des tournages, des shootings, parce qu'il fallait faire un peu rentrer des sous et que...
Ouais, j'allais dire, c'est comment vous faites rentrer de l'argent, en fait.
C'est la galère, on va pas se le cacher. Je pense qu'on est dans un gros déni.
Vous avez pas de moyens moyens d'avoir des budgets de la ville ou
alors
des
on est...
dons ou de sponsors et choses comme ça ?
Il n'y en a pas trop. Enfin, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on est très mauvais avec l'argent, qu'on se le dise clairement. La deuxième...
C'est tout le monde, je crois, en ce moment.
Donc, faire des dossiers... On a fait une demande de sub, mais elle nous a été refusée, tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans des cases, en fait, justement.
Ah, c'est trop...
Et en fait, le truc d'être tout... Tu peux penser que tu pourrais tout demander, et en fait, non, parce qu'en fait, du coup, sur l'équilibre global. Et puis, ouais, voilà, parce que sur l'équilibre global, 1, 2, 3, l'équilibre global, bah, ça, pour eux, ça va pas.
Bah, administrativement, tu rentres pas dans les cases qui sont prévues, et du coup, tu passes pas les étapes, quoi.
Exactement.
Ce qui est très frustrant.
Ce qui est très frustrant, parce qu'en fait, on fait de l'action. Citoyenne, tu vois, et en fait, on devrait presque être remboursé par la Sécu, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Mais bon, écoute, en même temps, d'être indépendant et dans la galère, ça nous permet de faire ce qu'on veut.
Ouais, c'est un prix à payer.
Bon, ouais, après, franchement, je pense qu'on est en déni. Je pense que très rapidement, on s'est dit qu'on n'allait pas prévoir quoi que ce soit, parce que ça sert à rien, et je pense que vu les amis qu'on prévu et qu'on a annulé, qu'on reprévu et qu'on réannulé, et leur santé mentale en ce moment, je pense qu'on a bien fait de juste pas prévoir et de prendre les trucs un peu comme ça, et go with the flow, et voilà, et puis on verra dans tout ça. On espère, comme tout le monde, que l'été sera un peu plus festif, chaleureux, fructueux. Et on verra, quoi. De toute façon, on verra.
Enfin, vous préparez la reprise déjà ou pas
vraiment? Ouais, un peu,
ouais,
quand
un
même.
Un peu quand même.
Un peu quand même.
Des événements, des choses pour l'été, des...
Ouais, moi j'aimerais bien. On a un petit rooftop là où j'aimerais bien l'aménager. Donc, prendre le temps de le faire. Anticiper la transition entre une action complètement purement des maraudes et le restaurant qui, normalement, est le nôtre. Et donc, peut-être transiter par une cantine associative, voir comment on peut twister le truc. Voilà.
Tu dis cantine associative, c'est-à-dire que tu viens et tu donnes ce que tu veux pour manger, comme à Melbourne, le.
L'Antilas and King.
Bien sûr. Enfin,
c'est un modèle que
génial.
Je cite tout le temps et que
génial,
personne.
Ça.
Alors.
Bien sûr, je vais t'aller au. Il y en a plus, il y en a deux. Moi, j'allais souvent celui où il y a la belle église et le.
Ouais.
Le comment ça s'appelle
Oui, c'était celui-là.
Le jardin.
Très beau. Alors, figure-toi qu'il y a des gens qui ont... Une fille, j'avais suivi parce que je trouvais le projet trop bien. Et il y a une fille qui a essayé de le ramener à Paris, mais on n'est pas du tout prêt, tu vois, en fait.
Bah, je pense que dans les mentalités, c'est différent de donner quelque chose. Parce que c'est vrai qu'à Melbourne, moi, quand j'y allais, la plupart des gens, ils donnaient quand même 10 dollars, quoi. 10-15 dollars, un minimum pour un repas complet, alors qu'en France...
Mais tu vois, le volunteering à Melbourne, c'est valorisé. Tu le mets dans ton CV.
Ouais. Carrément. Ça commence à l'être un peu, je trouve, ici en France. Quand je dis ça, je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore conscience.
J'ai pas l'impression, mais tu vois, on parlait de faire la plateforme, genre le pôle emploi de l'associatif.
Ouais.
Bah, sur Broadsheet Melbourne, tu l'avais ça, tu vois.
Vrai,
tu tapais, moi j'ai envie d'être volontaire 5 heures par semaine dans une asso culturelle, et ça te sortait les trucs, tu vois. Mais je pense que le tissu associatif... bordélique, c'est pas un négatif, c'est juste qu'il est fait comme il s'est fait et qu'il n'a pas été fait à la manière en tout cas australienne de ce que j'ai vu, qui est en fait presque des petites sociétés, tu vois. Et donc c'est très compliqué parce que les assos, ils savent pas référencer leurs besoins. Et donc d'arriver à un truc comme ça, mais bon, j'aimerais trop. Bah, typiquement, c'est ce que j'adorerais faire. Ici, il y avait un autre modèle qui s'appelle le Freegan Pony, s'appelait, qui je crois va être lancé, j'ai ouï dire, mais je sais pas. Mais en gros, alors c'est soit donne ce que tu veux, enfin pay as you want, soit un pour un, ça s'appelle le café suspendu. Donc t'achètes un repas, tu sais qu'il y en a, ça permet d'en reverser un, ou un pour deux, tu vois, faut voir les ratios. Voilà, je pense que ce serait un modèle un peu comme ça, ouais.
Idéalement,
j'adorerais.
À refaire, ouais, parce que c'est vrai que ça marche bien là-bas et
C'est
génial, quoi. Il y a une bonne ambiance, il y a tout le temps des.
Trop
sympa,
c'est hyper bon, puis ça colle avec le lieu, tu vois. Ouais, ça, j'adorerais faire ça.
D'accord.
Donc voilà, un peu de taf de structuration, faire des papiers, voilà, des trucs comme ça. Et puis mettre des petits hameçons. Et puis de toute façon, quand ça va reprendre fort. Donc l'idée, c'est de préparer le terrain au mieux qu'on puisse, quoi, après.
Et du coup, un peu question pratique par rapport à... Donc toi, tu gères un peu le lieu, tu supervises un peu tout. Donc il y a les artistes qui sont en résidence. Et ensuite, les gens qui travaillent avec toi, c'est des bénévoles, c'est des gens qui travaillent pour toi. Comment ça se passe?
Bah là, là il n'y a personne, clairement.
Ouais.
Parce que bah y a rien, quoi, donc ça ne sert à rien. Nous, on a une petite équipe, donc avec lui, on a une autre structure qu'on vient de fraîchement renommer Full Moon.
Ok.
on est quatre dedans, à gérer l'ensemble des lieux. Mais c'est vrai que là, sur le consulat, c'est plutôt moi parce que bon, il n'y a pas grand-chose. Après, quand y a des, par exemple, quand il y a des besoins un peu plus techniques ou prod, il y a Antoine qui travaille avec nous, qui lui est beaucoup plus aussi sur les clubs habituellement. Et il y a Chloé aussi, qui est plutôt normalement à l'exploitation, mais qui est là beaucoup plus sur la folie Barbizon, donc l'autre truc. Quand ça reprend, on s'arrange entre nous, quoi, on va dire. Après, bon, j'ai un attachement de cœur qui fait que je suis là, tu vois, tous les jours et que machin. Et que
oui, truc. C'est mon bébé, quoi.
Ouais, c'est mon baby.
Tu pas, ouais, bien sûr.
C'est catastrophique.
mais c'est une bonne chose.
Oui, mais il faut apprendre à déléguer. Non, j'aimerais bien, mais là, bon, là, il n'y a pas... Il y aurait besoin, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de possibilité, machin.
Ouais.
Mais par exemple, au dernier, je crois qu'à la fin, il y avait genre 50 personnes qui bossaient entre les équipes. Normalement, tu as une équipe un peu programmatique.
Ouais.
Et après, tu as des équipes de production et des équipes d'exploitation. Donc, un directeur de production, par exemple, des équipes d'exploitation, c'est-à-dire restaurant et bar, les équipes de ménage, les équipes... après, dans la programmation, au dernier, on a un peu fait l'écueil de prendre une personne par type de truc. Donc, une personne à l'art, enfin, deux personnes même à l'art. La radio, Xavier, ils étaient au moins trois. Il y avait quoi, il y avait la food, elles étaient deux, il y avait, bon, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois.
Ouais, département, quoi.
Ouais, exactement, mais c'était trop gros,
ça
en fait.
Ah,
ouais,
okay.
Mais c'était trop gros, je crois qu'on a, on s'est trompé là-dessus. Ça a été trop de gens, et en fait, on était devenu quasiment une société, alors qu'en fait, on durait 6 mois, quoi, et que c'était un truc associatif. Moi, dans l'idéal, et je crois qu'ils sont d'accord avec moi, mes compères, c'est de créer une coopérative. Après, juridiquement, c'est trop relou, mais en gros, t'as la COP... qui serait gang par exemple, et puis et dedans t'as des petites bulles, tu vois, le restaurant c'est une petite bulle et il est autogéré, et en fait il donne à la coopérative, c'est une part du truc, tu vois, et chaque structure comme ça serait un peu
autosuffisante.
Ça j'adorerais,
mais c'est compliqué, c'est-à-dire juridiquement,
c'est pas normal
que ce soit compliqué.
C'est trop relou. La coopérative, c'est, je trouve, le truc le plus
simple et communautaire, et
ouais, c'est communautaire, mais en fait juridiquement c'est a fucking pain in the ass, quoi. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a pas rien à dire. Alors après, une fois que tu l'as mis en place, tu vois, il y en a qui sont des très puissantes, genre Finacop, tu vois, c'est des comptables qui t'aident dans les assos et tout, et c'est hyper puissant. Des trucs comme La Louve, tu vois, qui est un supermarché où, en gros, tu donnes X heures de ton temps et en échange, tu peux accéder à ce supermarché-là, qui est forcément hyper biocop, bien sourcé, blablabla.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est génial, mais c'est lourd. Et comme on a des structures qui vont et qui viennent, parce que du coup, le consulat, tu vois,
c'est
une fois un mois, une fois 6 mois, une fois un an. Là, on ne sait pas où on va. Après, on avait plein d'autres projets, on ne sait pas où ça en est, etc.
Bien sûr.
En fait, on ne peut pas émonter et démonter le truc. Si on le monte, il faut l'entretenir. Donc, en fait, c'est hyper compliqué.
Ouais, prise de tête.
Donc, j'aimerais repliquer un peu le fonctionnement en n'ayant pas le truc juridique.
Et avoir un lieu permanent, est-ce que ce serait possible, du coup ? Pourquoi vous avez choisi, en fait, d'avoir un lieu itinérant, éphémère ? C'est un concept ?
Au début, c'était une contrainte.
Ouais.
Enfin, c'est... En fait, le premier, on l'a pris comme ça, donc on l'a pris. Et puis après, on nous a proposé, donc on l'a repris. Et là, on a dit qu'on était itinérant parce que ça faisait 2 lieux et 2 machins.
Ouais.
Après, on a eu des propositions pour être un peu plus pérennes. Moi, personnellement, j'aime bien le côté... éphémère, parce qu'il y a une forme d'urgence et d'unicité. Enfin, tu vois, il y a un truc unique, c'est que soit tu viens maintenant, et j'ai toujours dit aussi, il faut être au consulat, c'est-à-dire que tu es là et tu viens et tu traînes, juste t'es là, et de toute façon, tu vas rencontrer des gens
qui ont des...
Ouais, forcément, ton voisin, t'as un truc à lui dire, parce qu'en fait, déjà, t'es là, en fait. Et donc, j'aime bien cette urgence-là, je crois. Après, c'est hyper fatigant. Genre, au dernier consulat, j'en ai chié, quoi, perso, et tout le monde, même moralement, quoi, ça a été éreintant.
Ouais, je comprends.
En même temps, t'es trop dans l'adrénaline du truc et tout, et en même temps, surtout qu'on a eu plein de problématiques, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que t'arrives dans des lieux qui sont en transition, donc techniquement, ils sont pas OP, et donc t'as envie de faire des travaux, mais c'est un peu du rafistolement, enfin, des trucs bout de ficelle, là, et en fait, bah, ça tient pas, tu vois. Et en fait, c'est pas vraiment de l'événementiel, c'est pas vraiment de la longue durée. Et donc, ce truc complètement... faudrait qu'on puisse fonctionner comme une société, mais en même temps, on est une association. Enfin, tu vois, t'as un truc toujours dans l'entre-deux qui est fatigant.
Ouais.
qui demande énormément d'énergie, que j'arrivais à donner parce que j'étais jeune, mais parce que là, je deviens un peu plus vieille. Lol. Mais non, mais en vrai, si, tu perds quand même de l'énergie. Enfin, je pourrais pas tenir le rythme du dernier consulat sur les un an, clairement. Là, si on avait vraiment exploité pendant un an, ça aurait pas du tout été possible. Je me souviens d'une scène sur Insta où je filme, il est 6h du tam, il y a une fusion mes couilles, gros stuff techno qui vient de se terminer. On fait 3 heures de ménage, il y a des députés européens qui sont dans la même salle.
Oui, un délire, quoi.
C'était fou. Après, ouais. Moi, j'adore ce truc un peu factory, tu vois, où genre, il y en a partout, émulation, ça s'arrête pas jour la nuit. Mais si c'est ça, il faut se donner les moyens d'avoir une structure solide qui permet d'employer, du coup, le double de taf, de staff. Ouais. Et on le fait pas, en tout cas. Je sais pas si on en a pas les moyens, si on juste... Tu vois, il y a aussi ce truc d'urgence, c'est que quand t'es dans l'événementiel, c'est genre, viens, on prend, on met les valises, on y va.
Des papiers, des machins...
Ouais. Et donc voilà. Et donc le pérenne, pourquoi pas ? Moi, je pense que ce sera compliqué de faire du consulat dans la durée, parce que justement, il n'y a pas ce truc un peu d'urgence. Et je crois que c'est un modèle qui fonctionne aussi comme ça. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut qu'on...
Après, il y a ce côté intéressant, je trouve, comme tu l'as dit, le premier lieu, il était au premier lieu déjà ?
Rue Balue, dans le 9e.
Voilà, c'est intéressant aussi de bouger de quartier, puis du coup, ça vous force à vous occuper de la communauté dans laquelle vous êtes. Ouais. L'arrondissement, là, par exemple, on est dans le 11e, il y a le 20e pas loin, il y a un côté plus populaire que le 9e. Montparnasse, ça n'avait rien à voir.
Rien à voir.
Du coup, je trouve ça aussi, parce que j'ai compris du concept, c'est quand même communautaire. Et c'est aussi agir dans le lieu dans lequel vous êtes, à un moment donné, qui est un lieu qui est en transition.
Ouais.
Et du coup, ça va avec votre manière de penser et votre esprit, quoi. Donc, c'est logique aussi d'être itinérant.
Ouais, complètement. Et genre, c'est drôle, parce que ça me fait penser à... Il y a des urbanistes qui étaient venus nous voir un peu en... Tu sais, comme des explorateurs.
Curiosité. Qu'est-ce que vous faites?
Et en fait, là, c'est la première fois où je me suis rendu compte dans le dernier consulat que l'architecture pouvait aussi bien te donner que t'étouffer. Et en plus, tout le monde, moi, j'aime pas ce mot de concept, mais on a une espèce de formule qu'on met et puis qui, du coup, la morphologie, elle change en fonction du lieu, tu vois. Forcément, le premier, c'était un immeuble tout en long comme ça, avec un club au dernier étage. Le deuxième, c'était un gros pâté, un gros carré avec que 2 étages, sans aucune cloison. Donc ça, c'était une galère, parce que pour le bruit, tu vois, en même temps, c'est super d'être dans des grands espaces, des grands volumes, mais en même temps, c'est trop relou, parce que quand t'as une répète, et en même temps une conférence, et en même temps la radio qui essaye de record, ça fonctionne pas, tu vois. Et donc, la programmation aussi, elle change vis-à-vis de ça. Dans celui-ci, il y a un truc un peu cathédral. C'est un générateur électrique et on l'a appelé générateur d'énergie nouvelle. Mmh. Et donc, il y a un truc aussi un peu plus sacré, tu vois. On a fait des concerts à la bougie, en acoustique, parce que le lieu, il résonne comme ça. Forcément, il y a un truc avec le passif sur les énergies qui sont hyper actuelles. En plus, en ce moment, tout le monde s'y reconnecte, hein, j'espère, un petit peu. Donc moi, j'aime bien aussi être polymorphe et forcément s'adapter au truc, quoi.
Ouais,
et ce lieu, dès qu'on l'a visité, tu vois, tu sens... Enfin, tu le sens, quoi.
La structure et les grands plafonds. Super. Bah, écoute, je vais parler de ton pari, si tu veux, ton pari, avant d'arrêter l'interview. Du coup, donc, on est en plein confinement. Non, couvre-feu. Mais
là, on sait plus, quoi.
On sait plus trop ce que c'est. Covid, voilà. Et je voulais savoir, donc, qu'est-ce qui a fait que tu es restée... Est-ce que tu es restée toute l'année, toi, à Paris ?
Ouais, au final, ouais.
Et tu as choisi, j'imagine, de rester dans Paris. Donc, de ne pas fuir la métropole comme beaucoup l'ont fait, ou t'es restée, quoi.
Je suis amoureuse de cette ville, en fait.
Ouais.
Quand j'étais petite, mes frères, ils sont athlètes de haut niveau, et ils sont partis de chez moi, et ils habitaient à Paris... Et mon frère, il m'avait offert une petite tour Eiffel en boule de neige.
Ah oui.
Et tous les soirs, je faisais un vœu avec la boule de neige comme ça. Et j'ai même changé d'études, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je voulais être à Paris. Parce que j'ai un truc dans cette ville, voilà. Donc, je voulais être née, et il n'y avait qu'une école de nez parfumeur. C'était à Grasse, dans le sud.
C'est vrai que tu voulais être née ? Génial.
Et du coup, comme elle était à Grasse, j'ai changé... Puis j'ai fait autre chose. Puis here we are. Mais.
Quand même, elle est à Grasse, quand c'est l'école, même pas.
Non. C'était genre vraiment, je voulais être à Paris avec mes frères et tout.
Et tu viens d'où, toi, à la base ?
Normandie, j'ai grandi en Normandie.
Ok. Donc t'es venue ici ?
Je suis venue ici à 17 ans et j'ai rencontré Lio 6 mois plus tard.
Ok.
Vraiment, enfin, tout s'est fait de manière très naturelle. Après, pourquoi je suis pas. En fait, il y avait un truc. Donc, je suis balance, ascendant, gémeaux. Je ne sais pas prendre de décision. Mmh. Et il y avait un truc...
compliqué.
Il y avait un truc... les jours avant, là, quand il y avait un truc de fin du monde, t'avais l'impression qu'il fallait que tu choisisses où tu voulais finir ta vie, quoi. Et en fait, j'étais genre, ah, j'avais plein de sollicitations, on part à la campagne, on part au machin et tout. Et en fait, j'ai fait genre... Et en plus, à ce moment-là, j'avais encore mon petit chat, notre petit chat, parce qu'on avait un chat qu'on avait pris au dernier consulat qui s'appelait Wifi, qu'on a appelé Wifi parce qu'on n'avait pas le Wifi, mais au moins on avait Wifi le chat. Et puis en fait, qui est devenu mon chat, qui a disparu juste avant le deuxième confinement. Mais à ce moment-là, t'as genre un chat, donc en fait, tu peux pas trop faire n'importe quoi non plus. Enfin, c'est une petite personne, donc il faut quand même un peu gérer le truc. Ça, et puis, à la base, on partait que pour 3 semaines. Et je crois que j'étais très curieuse de savoir ce qu'allait se créer de cette espèce de fin du monde, notamment dans cette ville que j'aime. Et en fait, alors les premières sorties, parce que je suis pas mal sortie, j'avoue que, I must confess, j'ai pas trop confiné. Hein, déjà, on avait cette action. Moi, je cuisinais dans un des restos. Donc on avait un petit groupe de potes. Et donc, 3 jours par semaine, je sortais pour aller cuisiner. Donc, il y avait quand même un semblant de vie sociale. Et puis, je suis sortie la nuit pour voir ce Paris vide, quoi. Et au début, forcément, c'est hyper émouvant parce qu'en fait, tu vas jamais le... Enfin, cette ville, elle est jamais vide, en fait. Elle est jamais calme. Et c'était... incroyable, mais vraiment c'était ouf. Et puis à force de sortir la nuit voir la ville vide, je me suis dit que le vide c'était la mort et que en fait une ville ça devait pas être vide ni mort, c'était l'antinomie en fait, c'est l'énergie, c'est l'être ensemble, c'est... Et donc à la fin c'était compliqué, ça m'attristait, ça m'alourdissait ce truc. Après j'étais très contente de vivre ce que j'ai vécu pendant le confinement, j'ai décidé de pas partir. Et j'en suis ravie, en fait. Voilà, j'ai pas senti le besoin. Et au deuxième, j'ai confiné ici.
D'accord.
Dans le consulat.
Ici.
Ouais.
Tu vivais ici.
Pendant un mois avec 2 potes.
Super.
Et c'était trop bien parce qu'on avait grandi le projet, que, tu vois, on construisait des trucs. Enfin, il y avait vraiment une vie.
Une énergie artistique, créative.
On l'a appelé la commu. C'est de la communauté.
Ouais.
Et moi, c'est mon modèle de vie, s'il en est, tu vois, ce serait... Je pensais jamais être propriétaire, mais si un jour je dois l'être, ce serait du co-living, quoi.
Ouais, communauté.
Ouais. Ouais, mais je viens de ça, donc ma tante et mon cousin ont grandi là-dedans, enfin, ont vécu là-dedans, donc on était un peu avec ma mère à côté.
C'est
naturel, ouais. Ouais, de ouf. Mm. Donc voilà, donc non, je suis pas partie. En même temps, je comprends. Enfin, tu vois, tous ceux qui partent en ce moment, c'est vrai qu'il faut se reconnecter, que la ville, elle est partie en couille. Moi, je pense beaucoup qui... Il y a un super reportage, je crois, qui est encore sur Arte, c'est la fin des mégapoles, point d'interrogation.
Ouais.
Et je pense que oui, je pense que en fait tu vas que Paris est longtemps resté Versailles avec sa cour et tu vois et ses petits rois soleil à droite à gauche, mais qu'il faut décentraliser et qu'il va y avoir plein de petits hubs comme ça et on en voit des potes qui créent des petits hameaux, des petits oasis comme on les appelle. Dans chez les bobos, quoi. Mais en fait, ça a toujours existé. Juste là, c'est rajouter une offre peut-être un peu plus culturelle à tout ça. Et voilà. Et donc, il y aura des petits points comme ça, à droite, à gauche, qui vont être reliés. Et puis Paris, en tout cas, les mégapoles, ça va être pour des gens très, très riches qui ont besoin d'être connectés dans le monde. Et puis des gens très, très pauvres qui vont les servir. Et puis, c'est un peu triste, mais je crois que c'est ça.
Ça qui se définit. Comment tu as vécu donc dans différentes mégapoles? Bon, Melbourne, oui, c'est une mégapole.
Ouais, Melbourne, c'est une mégapole.
Tu as vécu dans d'autres grosses villes sinon?
J'ai pas vraiment vivre, c'est-à-dire refaire ma vie, j'ai fait Melbourne et Paris.
Melbourne et Paris.
Ouais, parce que Melbourne, je suis partie le jour où j'avais mes habitudes en fait. Et j'ai dit, en fait, j'ai l'impression, enfin, je serais là ou autre part, ce serait pareil.
Ouais.
Sauf que je suis là et je me suis refait une vie. Ça, c'est ouf d'ailleurs de se refaire une vie.
Ouais.
Après, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais refait ma vie.
Reconstruire quelque chose.
Ouais, vraiment, tu vois, t'es là, t'as ton appart, t'as ton taf, t'as tes potes, enfin, t'as refait ta vie. Et c'est au moment où je pars.
Et si tu devais vivre ailleurs, tu voudrais tester une autre ville ou pas?
Je sais pas, on me demande souvent. Je sais pas.
Pas pour le moment, du moins.
Moi, j'aime bien l'idée de partir ailleurs. Après, je sais pas. Beaucoup de gens me disent que je devrais aller à New York, je suis jamais allée aux États-Unis.
D'accord.
Pourquoi pas? Mais pas plus que ça. Moi, j'adore l'Amérique latine, mais c'est pas les villes comme on les connaît, c'est pas les villes occidentales.
Ouais, ça a rien à voir.
Rien à voir. Non, puis je m'appelle Gypsy, en fait, hein, donc je crois que je suis vouée à errer.
Être une nomade.
Ouais.
Et comment tu décrirais Paris, quelqu'un qui ne connaît pas Paris ?
Comment je décrirais Paris ? Oh, hyper dur comme question ! Gris. Non, c'est que l'horreur. Paris. C'est dur de dire ça.
Si t'as un organe dans le corps, hein, ce serait quoi ?
Ah bah le cœur, bien sûr.
C'est le cœur, Paris ?
Ah mais Paris, c'est l'amour. Moi, le jour où Notre-Dame a pleuré... Ah, a pleuré. Le jour où Notre-Dame a brûlé, j'ai pleuré. Mais j'allais dire, c'est véridique.
Ouais, ouais.
Je sais pas si c'est scientifiquement prouvé, mais c'est un point névralgique. Il y a des trucs d'énergie dans cette ville qui sont ouf, tu vois. Mm. Et il y a un passif romantique, pas dans le sens le cœur et l'amour, tu vois,
non,
mais dans un
dans
truc artistique, la bohème, tu vois.
Ouais, ouais,
moi, c'est ce Paris-là que j'adore. Et en même temps, c'est très muséal. Et donc, et en même temps, je te dis ça et je réfléchis. Et en même temps, il faut que ce soit le grand Paris aujourd'hui. Il faut que ce soit beaucoup plus cosmopolite, tu vois, beaucoup plus mélangé, en fait. Faut pas s'attacher à... Je pense à... Tu vois, la parisienne, nanan et tout. Non, je pense qu'aujourd'hui,
c'est... Pas, ça n'existe plus. Ça ne devrait plus exister.
Ça ne devrait plus exister et que Paris, elle est vécue par plein d'autres yeux.
Ouais.
Et c'est ça qui est super. Et que, par contre, ouais, il y a la... Non, alors, il y a un autre... C'est la beauté. Cette ville est belle.
Elle est belle, c'est vrai.
Ouais.
Enfin, d'un point de vue esthétique, presque plastique, en fait.
Ouais. La ville, elle est belle. Mais tu vois, même quand elle est sale, parce que c'est une ville sale, mais elle est belle et les gens, ils sont beaux. Enfin, tu vois, il y a un truc de...
Esthétique.
Ouais.
C'est beau. Non, c'est vrai, je suis d'accord.
Et ça, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, j'en sais rien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un truc qui la caractérise, ouais. Je crois.
Et où est-ce que tu vas aller quand les choses réouvrent ? Enfin, qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas faire
Ben, gros stuff.
Classique, quoi.
Bah non, mais... Ah, et aussi, j'ai dit que j'irais manger dans mon resto préféré.
Il est où ?
Juste derrière chez WAM, c'est un petit italien.
T'habites où du coup ?
Ah, Saint-Paul. J'habite vraiment dans le cœur
de
Paris. J'habite entre Saint-Paul et Pont-Marie, j'habite rue de Jouy.
D'accord.
Et donc, je peux pas être plus au centre, je crois.
Ouais.
C'était pas un choix à la base, j'habitais dans le 10e. Mais quand j'habitais à Créteil, après j'habitais derrière Beaubourg, après j'habitais dans le 10e, rue de l'Ancry, canal. Et là, je suis rue de Jouy. Et en fait, ouais, je suis quand même bien au milieu. Et donc, juste derrière, il y a un petit restaurant. Qui est trop bon et en plus c'est génial parce que t'as pas à choisir, c'est le patron qui te dit ce que tu manges limite,
ouais,
et
ouais,
moi j'adore
soit,
et c'est trop bon et ça quand même, ouais, les restos c'est, ça fait chier quoi, ouais, ça manque. Et ouais, non, une grosse teuf avec tous mes potes et vraiment la foule. En fait, ce qui me manque et qui est propre aussi à cette ville, c'est la ride. C'est-à-dire se laisser à... tu vois, par exemple, typiquement petits drinks de fin de journée, petits drinks,
ouais.
J'ai dit petits drinks.
After work.
Non, verre en terrasse.
Voilà.
Déjà, la terrasse où tu regardes les gens, quand même, c'est fou, ce truc parisien, tu vois. Bref, et...
C'est fait pour regarder,
ouais,
les autres.
Mais c'est un catwalk. C'est
ouais,
un... Mais c'est pour ça que je te dis que ça restera à Versailles, c'est la galerie des glaces, cette ville. Et, petit verre, et puis là, tu croises un pote. Ah, machin, viens, on va là. Hop, t'attaques, et viens, voilà.
Tu suives la vague constamment.
Ouais, ça, c'est la ride. Ça, c'est la vraie ride. Et c'est laisser l'inconnu te saisir et...
surprendre.
Ça, c'est génial. Et ça, c'est ce qui me manque le plus. Parce que maintenant, il faut tout prévoir. Et en plus, bizarrement, je suis très nulle à ça, alors que c'est mon métier, tu vois, de planifier les choses et d'organiser. Mais dans la vie, la ride, quoi, le flow, de laisser aller l'imprévu, tout ça manque trop. Ça manque trop, donc je pense que je ferai une bonne grosse ride, tu vois.
Ride. Ouais, tu laisseras aller.
Ouais.
Super. Dernière question,
oui.
C'est quoi pour toi, Falto ?
Oh, voilà, c'est ça. Falto, c'est un génie fou. Ou un fou génie, mais je pense que ça veut dire la même chose.
Les deux vont ensemble.
De ouf. Mais c'est un... Et c'est une des personnes qui me fait le plus rire, une des personnes avec lesquelles j'aime le plus échanger, parce qu'il y a un vrai échange, sauf quand il fait le con, mais quand il joue au con et qu'il fait le mal alpha. Mais bon, c'est rare.
Ça dure moins souvent.
C'est moins souvent.
C'est rare maintenant.
Et
il a enlevé ce personnage.
Formidable. Et ouais, non, c'est... Oh, quoi. C'est trop bien. C'est une très, très belle rencontre. Ouais. À toi.